11 juin. Comment vous remercier, Makar Alexievitch, pour cette promenade d'hier sur les îles? Il faisait si frais là-bas, si bon, et que de verdure. Tant de temps déjà que je n'avais vu de verdure. Durant ma maladie, je croyais que j'allais mourir. Je considérais ma mort comme proche et inéluctable. Jugez ainsi de ce que j'ai dû ressentir, éprouver hier au cours de cette promenade. Ne m'en voulez pas de ce que j'ai été si triste tout le temps. J'étais très contente, très heureuse au contraire, mais il se mêle toujours de la tristesse à mes meilleurs instants de bonheur. Si j'ai pleuré un peu, il ne faut pas y faire attention. Je ne sais pas moi-même pourquoi je pleure parfois. Ma sensibilité est aiguë, facilement irritable, et mes impressions ont des prolongements douloureux. Le ciel pâle et sans nuages, le coucher du soleil, la paix du soir, tout cela y a contribué peut-être, je l'ignore. J'étais sans doute prédisposé hier à ressentir les choses avec tristesse et d'un cœur lourd, si bien que mon âme semblait sur le point d'éclater par moments, et les larmes se pressaient soudain à mes yeux. Mais pourquoi vous écrire tout cela? Ce sont des sentiments pénibles et qu'il est plus pénible encore d'exprimer. Peut-être me comprendrez-vous néanmoins, j'étais joyeuse et triste à la fois. Que vous êtes bon en vérité, Makar Alexievitch. Hier, vous ne cessiez de me regarder dans les yeux, afin d'y lire mes impressions, et vous vous enthousiasmiez de mon enthousiasme. Qu'il s'agit d'un bosquet, d'une allée, d'une pièce d'eau, vous étiez là aussitôt, devant moi, tout fier, et me regardiez dans les yeux sans cesse, comme si vous faisiez admirer vos domaines. Cela prouve que vous avez un bon cœur, Makar Alexievitch. C'est pour cela que je vous aime justement. Adieu maintenant. Oh, je suis de nouveau malade aujourd'hui. Je me suis mouillé les pieds hier et j'ai pris froid. Fedora n'est pas bien non plus, en sorte que nous voilà toutes deux malades à la maison. Ne m'oubliez pas. Venez me voir plus souvent. Votre V.D. « 12 juin. Ma chère Barbara Alexeyevna, ma tourterelle, moi qui avais cru, ma petite mère, que vous me décriviez cette journée en vers véritable, et c'est tout juste un petit feuillet que vous avez rempli. Si je le dis ici, c'est parce que vous avez écrit peu, il est vrai, mais que vous avez si bien, si joliment exprimé les choses, en revanche. » La nature, les tableaux de la campagne et tout le reste, avec les sentiments tout y est, en un mot, vous avez tout dépeint admirablement. Moi, je n'ai pas de talent. J'aurais beau noircir des pages et des pages, cela ne donne rien, je n'y parviens pas, j'ai déjà essayé. Vous me dites, ma chère amie, que je suis un brave homme, que j'ai bon cœur, que je suis incapable de faire du mal à mon prochain, et que je sais apprécier les beautés que le Seigneur a jetées dans la création. Bref, vous me faites toutes sortes d'éloges. Tout cela est vrai, ma petite mère, tout cela est parfaitement exact. Je suis, en effet, tel que vous me décrivez, et je le sais moi-même. Mais quand je lis des choses comme celles que vous me dites dans votre lettre, mon âme s'attendrit involontairement, et ce sont ensuite des pensées tristes qui me viennent. Écoutez-moi donc, ma petite mère, j'ai quelque chose à vous raconter, moi aussi, ma chère amie. Sachez, pour commencer, que j'avais 17 ans seulement lorsque je suis entré dans l'administration, et que je compte près de 30 années de service actuellement. Je pourrai les célébrer bientôt. Ah, je puis le dire. J'en ai usé des uniformes durant cette période. J'ai pris de l'âge, du sérieux, mon esprit a mûri. J'ai appris à connaître les gens. J'ai vécu, oui, je peux dire que j'ai vécu en ce monde à tel point que j'ai failli être proposé pour la croix une fois. Vous ne me croirez peut-être pas. Je vous le dis la vérité, je vous l'assure. Eh bien, il a fallu pourtant qu'il se trouve des méchants pour me nuire. Je ne vous cacherai pas, ma bonne amie, je suis un homme obscur, un homme borné, sans doute, mais mon cœur est aussi bon que celui de n'importe qui d'autre. Savez-vous bien, Marinka, ce qu'ils m'ont fait, ces méchants? À quoi bon parler du reste de ce qu'ils ont fait? Demandez-moi plutôt pourquoi ils ont agi ainsi. Pourquoi? Parce que je suis un être doux, un petit homme tranquille, oui, parce que je suis un bon cœur. Cela ne leur a pas convenu, alors il a fallu que je paye. On s'en est pris à moi. Ils ont commencé par me dire « Vous, Makar Alexeïevitch, vous êtes ceci et cela. » Puis ce fut « Oh, quoi, toi, Makar Alexeïevitch, je n'ai même pas la peine d'en parler. » Et ils en sont venus pour finir à proclamer « Oh, ça, c'est pour sûr, Makar Alexeïevitch. » Vous voyez, ma petite mère, comment tout ça est venu. Tout sur le compte de Makar Alexeïevitch. C'est ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire. Ériger Makar Alexeïevitch en proverbe d'un bout à l'autre de notre département. Il ne leur a pas suffi du reste de faire de mon nom un proverbe et presque une insulte. Ils se sont attaqués à mes chaussures, à mon uniforme, à mes cheveux et même à mon visage. Tout leur déplaît en moi, il faudrait tout modifier selon eux. Et cela dure depuis des temps immémoriaux. Et cela se répète chaque jour. Je m'y suis habitué à la longue parce que je me fais à tout, parce que je suis un homme paisible, un humble. Mais pourquoi, pourquoi tout cela, dites-le-moi? À qui donc ai-je fait du mal? De qui ai-je empêché l'avancement? Qui ai-je calomnié devant mes supérieurs? Aurais-je obtenu des gratifications imméritées? Aurais-je ourdi des intrigues, monté des cabales? Voyons, ma petite mère, ce serait péché que de le croire. Comment l'aurais-je pu, moi? Jugez-vous-même, ma chère amie, ai-je assez d'intelligence pour la perfidie et les intrigues? Et pourquoi s'en prend-on à moi alors si méchamment? Que le Seigneur me pardonne. Vous trouvez-vous que je suis un digne homme et que vous êtes incomparablement meilleur que tous, ma petite mère? Et quelle est la plus grande des vertus civiques, voyons? Récemment, au cours d'une conversation privée, Eustache Ivanovitch a déclaré que la vertu civique la plus importante est de savoir amasser de l'argent. Il l'a dit en plaisantant. Je sais que c'est en plaisantant. Mais la morale qu'il convient d'en tirer est qu'il ne faut pas être à charge de personne en ce monde. Or, je ne dépends de personne. J'ai un morceau de pain assuré. C'est un humble morceau de pain, je le veux bien, et de pain sec parfois. Mais il est à moi, je l'ai gagné par mon travail légalement, et je le mange avec honneur. Que veut-on de plus de moi? Je sais parfaitement que ce n'est pas un grand mérite de faire des copies toute la journée. Cependant, je suis fier de mon travail. Je peine à la tâche, à la sueur de mon front. Quel mal y a-t-il donc à être un copiste? Serait-ce un péché par hasard que de copier? Ont-ils l'air de dire « c'est un copiste »? C'est un rat fonctionnaire qui ne fait que copier. Et qu'y a-t-il donc là de déshonorant? Mon écriture est nette, claire, agréable à voir, et son excellence en est pleinement satisfaite. Je copie pour son excellence les documents les plus importants. Je manque de style, quant à moi, je ne l'ignore pas, je sais que je n'en ai pas de ce maudit style. C'est pourquoi je n'ai pas avancé dans mon service. Et c'est aussi pourquoi, en cet instant même, je vous écris, ma chère amie, en toute simplicité, sans bien construire mes phrases, disant les choses comme elles me viennent sur le cœur. Je sais tout cela. Mais enfin, si tout le monde se mettait à écrire pour son propre compte, qui donc ferait les copies? Voilà la question que je vous pose, et je vous prie de me répondre ma petite mère, si j'ai raison ou non. Aussi, je reconnais aujourd'hui que je suis nécessaire, que je suis indispensable, et que c'est mal de chercher à troubler sans raison l'esprit d'un honnête homme en le chicanant sur des bêtises. Je suis un rat, soit, je l'admets, puisqu'on a trouvé que je ressemble à un rat. Mais le rat aussi est nécessaire, il a son utilité en ce monde, et on tient parfois aux rats, on leur donne des gratifications. Voilà quel rat je suis. C'en est assez sur ce sujet, ma chère amie. Ce n'est d'ailleurs point de cela que je désirais vous parler, je me suis échauffé un peu. Il est tout de même agréable de se rendre justice à soi-même de temps à autre. Adieu, ma chère amie, ma tourterelle, ma consolatrice au grand cœur. Je viendrai vous voir, je viendrai sûrement vous rendre visite, mon rayon de lumière. Ne vous ennuyez pas trop en attendant, je vous apporterai un livre. Adieu maintenant, Varinka. Votre ami affectionné et dévoué, Makar Dievushkin. 20 juin. Cher monsieur Makar Alexeyevitch, je vous écris à la hâte car je dois me dépêcher, ayant un travail à livrer qu'il me faut achever aujourd'hui. Voici de quoi il s'agit. L'occasion s'offre de faire un achat avantageux. Fedora me dit qu'il y a, chez une de ses connaissances, une tenue complète de fonctionnaire à vendre, presque neuve, avec pantalon, gilet et casquette, et on la céderait, paraît-il, pour un prix modique. Je pense que vous feriez bien de l'acheter. Vous n'êtes plus dans le besoin, vous avez un peu d'argent de côté, vous me l'avez affirmé vous-même. Ne dites pas non, voyons, ne faites pas l'avare. C'est une chose absolument nécessaire. Regardez-vous. Voyez à quel point vos vêtements sont usés. N'avez-vous pas honte? Des rapiéchages partout. Et vous ne possédez pas d'uniforme neuf. Je le sais bien que vous affirmiez le contraire. Dieu sait ce que vous en avez fait de cet uniforme neuf, ou vous l'avez vendu. Écoutez-moi, suivez mon conseil. Achetez cette tenue, je vous en prie. Faites-le pour moi. Si vous m'aimez, achetez-la. Vous m'avez envoyé du linge en cadeau. Voyons, Makar Alexeyevitch, vous vous ruinez. Cela a dû vous coûter très cher, mais comment pouvez-vous tant dépenser pour moi? Vraiment, vous trouvez du plaisir à gaspiller de l'argent, à le jeter par les fenêtres. Je n'avais pas besoin de ce linge. Tout cela est superflu. Je sais très bien que vous m'aimez, je n'en doute nullement. Croyez-moi, c'est inutile de me le rappeler en me faisant des cadeaux. Il m'est très pénible de les accepter de vous. Je sais ce qu'il vous coûte. Une fois pour toutes, cela suffit. M'entendez-vous? Je vous prie, je vous supplie de cesser. Vous me demandez, Makar Alexeyevitch, de vous envoyer la suite de mes souvenirs. Vous voudriez que j'achève de les rédiger. Je ne sais comment j'ai fait pour écrire ce que vous en avez lu, mais je n'aurai certainement pas la force maintenant de revenir sur mon passé. Je préfère l'oublier. Non, ce sont des souvenirs dont j'ai peur. Quant à ma pauvre mère qui a laissé sa malheureuse enfant en proie à ces monstres, parler d'elle me serait plus dur encore que le reste. Mon sang reflue à mon cœur quand j'y songe. Cela est encore si frais, si récent. Je n'ai pas eu le temps de revenir à moi pleinement, pas même de me calmer un peu, bien qu'une année se soit déjà écoulée depuis lors. Vous savez tout, d'ailleurs. Je vous ai parlé des dispositions présentes d'Anna Fyodorovna. Elle me taxe d'ingratitude, moi, et décline toute responsabilité, rejette l'accusation d'avoir été de connivence avec M. Bykov. Elle m'invite à revenir chez elle, affirmant que je deviens une mendiante et que je suis sur un mauvais chemin. Elle promet, pour le cas où je retournerai chez elle, d'arranger les choses avec M. Bykov et d'obliger celui-ci à réparer ses torts envers moi. Elle assure que M. Bykov est dispensé à me constituer une dot. Oh, j'aime mieux les ignorer. Je me trouve bien ici. Avec vous, avec ma bonne Fedora, dont l'attachement pour moi me rappelle ma défunte nourrice. Et quant à vous, bien que mon parent éloigné seulement, vous me protégez par l'autorité de votre nom. Ces gens-là, je ne les connais pas au fond. Je me forcerai de les oublier si je puis. Que me veulent-ils encore? Fedora prétend que ce ne sont que cancans de leur part et qu'ils finiront par me laisser tranquille. Que Dieu nous l'accorde. V.D. 21 juin. Ma tourterelle, ma petite mère, je désire vous écrire, mais je ne sais par où commencer. N'est-il pas étrange, ma petite mère, que nous vivions maintenant de cette façon, vous et moi? Je le dis parce que je n'ai jamais encore connu de toute mon existence des journées aussi heureuses. C'est comme si le Seigneur avait daigné m'accorder un foyer et une famille. Mon enfant, vous êtes mon adorable petit enfant. Que me racontez-vous là au sujet de ces quatre chemisettes que je vous ai envoyées? Vous en avez besoin, je l'ai su par Fedora. Pour moi, ma petite mère, c'est un immense bonheur que de pouvoir satisfaire vos vœux. C'est mon plaisir à moi, laissez-le-moi, ma petite mère. Ne m'en privez pas, ne me faites pas de chagrin. N'élevez pas d'objections tout le temps. Jamais je n'ai connu de période comme celle-ci. Je commence à savoir ce que c'est que la vie, je me lance dans le monde. Tout d'abord, j'ai l'impression de vivre doublement puisque vous demeurez près de moi pour ma consolation. Ensuite, un autre locataire m'a invité à prendre aujourd'hui le thé avec lui. C'est mon voisin Ratazieniev. Ce fonctionnaire, justement, qui organise des soirées littéraires chez lui. Il y a réunion ce soir, nous ferons de la littérature. Voilà ce que nous faisons maintenant, ma petite mère, voilà ce que nous sommes actuellement. Bon, adieu pour l'instant. J'écris tout cela comme ceci, sans aucun but, uniquement pour vous faire savoir que je me porte bien. Vous m'avez fait dire, ma douce âme, par Thérèse, que vous avez besoin d'un peu de soie teinte pour vos travaux de couture. J'en achèterai, ma petite mère, j'en achèterai. J'achèterai de la soie aussi. Dès demain, j'aurai le plaisir de vous donner pleine satisfaction sur ce point. Je sais où l'on en vend d'ailleurs. Et je demeure en attendant votre ami sincère, Makar Yevushkin. « 22 juin. Chère Madame Varvara Alexeyevna, je dois vous informer, ma très chère amie, que grand malheur est survenu dans notre appartement, un événement digne de la plus profonde compassion. Ce matin, vers 5 heures, la mort a enlevé un des enfants de Madame Gorshkov. J'ignore de quoi il était malade, si c'est de scarlatine ou de quelque autre mal, Dieu sait. J'ai rendu visite à ces Gorshkov. Eh bien, ma petite mère, en voilà de pauvres gens. Quelle misère chez eux, et quel désordre aussi. Ce n'est pas surprenant, d'ailleurs. Toute la famille vit dans une seule chambre, partagée en deux par un simple paravent pour la décence. Ils ont déjà acquis un petit cercueil très simple, mais assez joli. Ils l'ont acheté tout fait. C'était un garçon d'une dizaine d'années qui leur donnait, dit-on, des espérances. Ça fait pitié de les voir, savez-vous, Varinka. La mère ne pleure point, mais elle a l'air si affreusement triste, la malheureuse. C'est sans doute un soulagement pour eux qu'il y en ait un de moins à nourrir, maintenant, mais il leur reste deux encore, un nourrisson et une petite fille âgée d'un peu plus de 6 ans. Quel plaisir peut-il y avoir en vérité à voir souffrir un enfant lorsque c'est le vôtre par surcroît, votre propre chair et qu'on n'a pas la possibilité de l'aider en rien. Le père, dans son habit usé et graisseux, ne bouge pas de sa chaise branlante. Des larmes coulent sur ses joues. Ce n'est peut-être pas de chagrin qu'il pleure du reste, mais comme ça, par habitude, parce que ses yeux se mouillent, étant pourris de misère et de faiblesse. Il est si bizarre, cet homme. Il rougit constamment quand on lui parle, se trouble et ne sait que répondre. La fillette, sa fille, se tient appuyée contre le cercueil avec un petit visage si triste, si pensif, la pauvrette. Oh, je n'aime pas, ma petite mère Varinka, je n'aime pas. Savez-vous que les enfants se mettent à réfléchir? Ce n'est pas agréable à voir. Une sorte de poupée faite de chiffon traîne sur le plancher à ses pieds, mais elle ne joue pas. Un petit doigt appuyé sur la bouche, elle reste là, sans bouger. Notre logeuse lui a donné un bonbon. Elle ne l'a pas mangé. C'est bien triste, Varinka, n'est-ce pas? Makar Yevushkin. 25 juin. Excellent Makar Alexievitch, je vous renvoie le livre que vous m'avez prêté. C'est un livre impossible, on a honte de le tenir en main. Où donc avez-vous déniché cette perle? Plaisanterie à part, aimez-vous réellement des ouvrages de ce genre, Makar Alexievitch? On m'a promis ici l'autre jour de me procurer quelque chose à lire. Oh, je vous prêterai ce livre, si vous le voulez. Pour l'instant, au revoir, je n'ai réellement pas le temps d'écrire davantage. V.D. 26 juin. Ma chère Varinka, le fait est que je n'avais réellement pas lu ce livre-là, petit Mattimer. J'en ai parcouru quelques lignes. Il m'a semblé que c'était amusant, qu'il était écrit pour faire rire les gens, et je me suis dit alors qu'il devait être sans doute très drôle. Peut-être aura-t-il la chance de plaire à Varinka. C'est pour cela que je voulais envoyer. Il se trouve que Rataziaev m'a promis de me passer de la littérature intéressante. De cette façon, vous aurez des livres, ma petite mère. Rataziaev s'y entend, c'est un homme savant. Il écrit lui-même et comment? Il a une plume si vive, si alerte, et quel style! Il a du style dans chaque mot. Oh, c'est incroyable! Dans le mot le plus simple, le plus banal, dans un de ces mots que je pourrais dire, moi par exemple, à Faldoni ou à Thérèse, il trouve le moyen, lui, de mettre du style. J'assiste également à ses soirées. Nous fumons la pipe et il nous fait la lecture, parfois jusqu'à 5 heures de suite, tandis que nous écoutons. Vrai, ce n'est même pas de la littérature, c'est une délectation. C'est de la beauté, des fleurs, tout le temps des fleurs. Oh, il y aurait de quoi en faire un bouquet à chaque page. Il est d'ailleurs si prévenant, si bon, si gentil. Que suis-je, moi, devant lui? Oh, oh, rien, absolument rien. C'est un homme avec de la renommée, tandis que moi, que suis-je donc? Rien. Je n'existe pas, et pourtant il est si bienveillant vers moi. Je copie pour lui certaines choses. Surtout, ne vous imaginez pas, Varinka, qu'il y ait une arrière-pensée dans tout cela et qu'il se montre gentil envers moi pour que je lui fasse des copies. Ne croyez pas les calomnies, ma petite mère. Ne croyez pas ces viles calomnies. Non, 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 je le fais spontanément, de ma propre volonté. Je copie ses travaux pour lui faire plaisir. Et s'il se montre bienveillant envers moi, c'est aussi pour me faire plaisir, c'est certain. Je sais apprécier la délicatesse de ce procédé, ma petite mère. C'est un homme bon, très bon, et un écrivain incomparable. C'est une bonne chose que la littérature, Varinka, une chose remarquable, je l'ai su par eux avant-hier. Et c'est une chose profonde. Elle raffermit le cœur, elle instruit, et ainsi de suite. Je ne me souviens pas de tout ce qui est dit à ce sujet dans leur livre. C'est un ouvrage si bien écrit. La littérature, c'est un tableau, c'est-à-dire à la fois un tableau et un miroir. On y trouve des passions, de l'expression, une critique tellement fine, des enseignements édifiants et des documents. J'ai appris chez eux tout cela. Je vous avouerai franchement, ma petite mère, que lorsque je suis assis parmi eux, écoutant, en allumant ma pipe, tout comme eux, et qu'ils commencent à discuter et à parler de différentes matières, je me trouve souvent très penaud, ma petite mère. Nous ne pouvons plus que nous taire, vous et moi, en de telles circonstances. Je sens alors que je ne suis que l'imbécile, j'ai honte de moi. Et je m'efforce durant des heures de trouver un petit mot, ne fût-ce qu'un demi-mot à placer dans la conversation. Mais comme par un fait exprès, ce petit mot ne me vient pas. Quel regret me prend Marinka dans ces moments, de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir, d'avoir grandi, selon le proverbe, en oubliant d'emporter avec moi mon intelligence. À quoi est-ce que je passe, par exemple, mes heures de loisir? Oh, je dors. Je dors stupidement. Alors qu'au lieu de ce sommeil superflu, je pourrais m'adonner à des occupations agréables, m'asseoir à ma table et écrire, par exemple. Ce serait utile pour moi et agréable pour d'autres. Si vous saviez seulement, ma petite mère, si vous saviez ce qu'ils se font payer leurs écrits, que le Seigneur leur pardonne. Tenez, ce Rataziaïev, il en touche. Et qu'est-ce que ça lui coûte d'écrire une feuille? Il peut en remplir 5 certains jours, et il reçoit ce qu'il m'a dit jusqu'à 300 roubles par feuille. Et s'il lui arrive d'y ajouter une anecdote ou quelque chose d'original, il obtient 500 roubles rubis sur l'ongle, et il les obtient. Rien à faire. Parfois même, c'est plus rare, on le paye jusqu'à 1000 roubles. Qu'en pensez-vous, Varvara Alexeyevna? Ce n'est pas tout. Il possède un cahier de vers. Oh, ce ne sont pas des vers très longs. Il en demande 7000 roubles, ma petite mère. 7000 roubles, imaginez-vous ça. Mais c'est le prix d'une propriété immobilière, d'une maison de rapport. Il me dit qu'on lui en a offert déjà 5000, mais il a refusé. Bon, j'ai voulu le raisonner. Acceptez donc 5000 de ces gens-là, mais acceptez l'offre, et on va les promener ensuite. Après tout, 5000 roubles, c'est une fortune. Non, me répondit-il, j'en veux 7000. Et ils finiront par me les donner, ces filous. Ouais, oh, c'est un homme remarquable. Puisque je vous parle de lui, ma petite mère, eh bien pourquoi ne vous transcrirai-je pas ici un passage des Passions italiennes? Allons-y, c'est le titre d'une œuvre qu'il a écrite. Lisez vous-même, Marinka, et jugez ensuite. Vladimir tressaillit, et les passions se déchaînèrent en lui furieusement, son sang se mit à bouillonner. Comtesse, s'écria-t-il, « Oh, comtesse, vous ne devinez pas à quel point cette passion est terrible. Vous ne mesurez pas l'immensité de ma folie. Non, mes rêves ne m'ont point menti. J'aime avec fureur, avec extase, avec rage. J'aime comme un insensé. Tout le sang de ton époux ne suffirait pas pour éteindre cet enthousiasme délirant, pour calmer ce feu qui me dévore. De misérables obstacles n'arrêteront pas les vagues tumultueuses et irrésistibles qui soulèvent mon cœur et ne viendront pas à bout des flammes infernales qui se démènent dans mon âme lasse et inassouvie. Oh, Zénaïde, Zénaïde !»« Vladimir !» murmura la comtesse en appuyant la tête sur son épaule. « Zénaïde !» s'écria Smielski au comble de la joie. Un soupir s'échappa de sa poitrine. L'incendie alluma des lueurs éclatantes sur l'autel de l'amour et fit tressaillir la poitrine des malheureux amants. « Vladimir !» murmura de nouveau la comtesse en extase. Sa poitrine se soulevait, ses joues s'empourpraient, ses yeux brillaient. De nouvelles, de monstrueuses épousailles furent consommées. Une demi-heure plus tard, le vieux comte pénétrait dans le boudoir de sa femme. « Ne conviendrait-il pas, ma gazelle, de commander un samovar pour notre chère hôte ?» demanda-t-il en pinçant amicalement la joue de son épouse. « Eh bien, je vous le demande, ma petite mère, qu'en pensez-vous après cela ?»« C'est un peu osé, je l'admets, on ne peut le nier, mais quelle beauté, en revanche, et quel style !»« Ce qui est bien, est bien. » « Si vous le permettez, je vous transcrirai encore un fragment du récit intitulé « Ermac et Zuleika ».« Figurez-vous, ma petite mère, que le cosaque Ermac, le farouche et redoutable conquérant de la Sibérie, est tombé amoureux de Zuleika, la fille du tsar sibérien Koutchoum, devenue sa captive. C'est une histoire de l'époque d'Ivan le Terrible, comme vous le voyez. » Voici l'entretien d'Ermac avec Zuleika. Tu m'aimes donc, Zuleika? Oh, répète-le, répète-le. Je t'aime, Ermac, murmura Zuleika. Oh, cieux, ô terre, grâce vous en soit rendue. Je suis heureux. Vous m'avez donné tout ce dont rêva depuis l'adolescence mon âme ardente et tragique. Voilà donc où tu m'as conduit, étoile de mon destin. Voilà pourquoi tu m'as mené si loin, au-delà de la ceinture de pierre. Je ferai admirer ma Zuleika au monde entier, et les hommes, ces monstres furieux, n'oseront pas me blâmer. Oh, s'ils étaient capables de comprendre les souffrances de son âme tendre, s'ils pouvaient voir le poème qu'enferme une seule des larmes de ma Zuleika. Oh, laisse-moi essuyer cette larme avec mes baisers. Laisse-moi boire cette larme bénie, cette larme divine, créature céleste. Ermac, dit Zuleika, le monde est méchant, les hommes sont injustes. Ils nous persécuteront, ils nous condamneront, mon cher Ermac. Que deviendra dans notre société froide, glacée, orgueilleuse et sans cœur? La pauvre fille grandit dans les neiges de la Sibérie natale et qui n'a jamais vu que sous la tente de son père. Les hommes ne me comprendront pas, mon adoré chevalier de mes rêves. En ce cas, le sabre cosaque s'abattra en sifflant sur leur tête, hurla Ermac les yeux fous. Vous imaginez-vous maintenant, Varinka? Comment il s'agitera, cet Ermac, lorsqu'il apprendra que sa Zuleika a été assassinée? Le vieux roi aveugle, Koutchoum, profitant de la nuit, s'est glissé en l'absence d'Ermac dans son camp, et il a tué sa propre fille dans le dessein de porter un coup mortel à Ermac, qui lui a ravi son sceptre et sa couronne. « J'aime le bruit du fer contre la pierre !» s'écria Ermac en état de fureur sauvage, tout en aiguisant son poignard sur une meule. « Je veux du sang, du sang. Il faut les tuer, les massacrer tous, les tailler en pièces. » Après quoi, Ermac, ne se sentant pas la force de survivre à sa Zuleika, se jette dans le fleuve Irtych et tout s'achève là-dessus. Oh, lisez encore ceci, ce n'est qu'un bref passage. C'est écrit dans un esprit de description comique, au fond, pour faire rire seulement. Connaissez-vous Ivan Prokofievitch Soltozhouzov, celui-là même qui a mordu Prokopy Ivanovitch à la jambe? Ivan Prokofievitch est un homme d'un caractère un peu rude, mais doué de grandes vertus par ailleurs. Prokopy Ivanovitch, tout au contraire, adore manger de la rave avec du miel. Du temps où il était encore lié avec Pelagie Antonovna. Mais peut-être ne connaissez-vous pas Pelagie Antonovna. C'est cette femme qui met toujours sa jupe à l'envers. Ça, c'est de l'humour, Varinka, et quel humour! Nous nous tordions les côtes tandis qu'il nous lisait ceci. Ah, mais c'est un gaillard, celui-là, que le Seigneur lui pardonne. J'admets du reste, ma petite mère, que cette œuvre est un peu audacieuse et trop badine aussi, mais elle est en revanche si saine, sans le moindre mélange d'athéisme ou de libéralisme. Il faut remarquer, ma petite mère, qu'Anastasiaeff a une conduite excellente, ce qui explique qu'il est un écrivain admirable, pas du tout comme les autres auteurs. Et si moi-même, c'est une idée bizarre qui me vient parfois à l'esprit, si je me mettais, mais oui, à écrire moi aussi, qu'adviendrait-il alors? Supposons, par exemple, qu'un beau jour, et sans crier gare, un petit livre paraisse et s'étale en librairie avec le titre Poème de Makar Ievouchkine. Eh bien, qu'en diriez-vous alors, mon petit ange? Comment le trouveriez-vous et qu'en penseriez-vous? Pour ce qui est de moi, ma petite mère, il faut que je vous l'avoue. Dès que mon livre aurait été publié, je n'oserais plus jamais mettre les pieds sur la perspective Nevski. Je n'ose pas même y songer. Chacun pourrait me désigner du doigt en ce cas en disant « Le voici, cet auteur, cet écrivain, Ievouchkine, le poète. Mais c'est lui, c'est Ievouchkine en personne. Qu'adviendrait-il à ce moment, ciel? Qu'adviendrait-il à cause de mes souliers? Car je dois vous confier en passant, ma petite mère, que mes souliers sont presque toujours rapiécés, et quant aux semelles, il leur arrive souvent de bâiller de façon peu convenable. Qu'adviendrait-il le jour où tout le monde apprendrait que l'auteur d'Ievouchkine porte des souliers rapiécés? Quelque comtesse-duchesse viendrait-elle à le savoir, et que dirait-elle, ma chère amie, que dirait-elle, je vous le demande? Peut-être ne s'en apercevrait-elle pas. J'imagine en effet que les comtesses ne s'intéressent pas aux souliers, et surtout pas aux souliers des petits fonctionnaires, car il y a enfin chaussures et chaussures. Mais on le lui raconterait, mes propres amis me trahiraient. Rataziaev serait le premier à vendre la mèche. Il rend fréquemment visite à la comtesse V. Il prétend qu'il y va sans façon quand le cœur lui en dit. C'est, dit-il, une femme admirable, pleine de littérature, une vraie dame. C'est un type, ce Rataziaev. Mais j'en ai déjà assez écrit là-dessus. Je vous en parle comme ça, mon petit ange, pour l'amusement seulement, afin de vous distraire un peu. Adieu, ma tourterelle. C'est une longue lettre que je vous envoie aujourd'hui. Ce qui vient du fait surtout que je suis particulièrement de bonne humeur cette fois-ci. Nous avons dîné chez Ratazyaïf. Ils nous ont servi de fameux vins. Oh, ce sont des galopins, ma petite mère. Mais ce n'est pas à vous que je pourrais en parler. Je vous en prie seulement, ne pensez rien de mal de moi, Varinka. Je le dis comme cela. Je vous enverrai des livres, je vous en enverrai sûrement. Il y a par ici un Paul de Kock qui circule, mais Paul de Kock n'est pas pour vous, ma petite mère. On ne vous le donnera pas, nenni. Cet ouvrage ne vous convient pas. On dit que cet auteur a provoqué la noble indignation de toutes les critiques de Saint-Pétersbourg. Je vous envoie une petite livre de bonbons, je les ai achetés exprès pour vous. Mangez-les, ma chère âme, et pensez à moi en croquant chacun de ces bonbons. Quant au sucre candi, ne le rongez pas, mais sucez-le, sans quoi vous n'en vous ferez mal. Peut-être aimez-vous aussi les fruits confits? Dites-le-moi en ce cas. Adieu, maintenant, adieu. Que le Seigneur soit avec vous, ma tourterelle. Quant à moi, je demeurerai toujours votre ami le plus sûr. Makar Ievouchkine. « 27 juin. Cher monsieur Makar Dievouchkine, Fiodora assure que si je voulais, certaines gens s'intéresseraient très volontiers à ma situation et me procureraient une excellente place dans une famille en qualité de gouvernante. Qu'en pensez-vous, mon ami? Faut-il que je l'accepte ou non? Il est évident que je ne vous serai plus à charge en ce cas, et l'emploi est, paraît-il, bien rétribué. Mais d'un autre côté, cela me fait peur un peu d'aller dans une maison étrangère. Il s'agit de propriétaires fonciers. Ils voudront s'informer à mon sujet, commenceront à me questionner, deviendront curieux. Que leur dirais-je alors? Avec cela, je suis extrêmement sauvage et farouche dans le monde. J'aime les coins où j'ai longtemps vécu et je ne m'en éloigne pas volontiers. On est toujours mieux là où l'on a déjà pris ses habitudes. On a beau y tirer le diable par la queue, on y est encore mieux qu'ailleurs. En outre, ces gens habitent loin d'ici. Et Dieu sait ce qu'on y attend de moi. Peut-être m'obligera-t-on simplement à faire la bonne d'enfant. Et puis ces gens ne m'inspirent pas confiance. C'est la troisième fois qu'ils changent de gouvernante en 2 ans. Conseillez-moi, Makar Alexeïevitch, je vous en supplie. Faut-il ou non que j'accepte cette offre? Mais pourquoi donc ne venez-vous jamais me voir? C'est si rare que vous fassiez un saut chez moi. C'est tout juste si nous nous voyons le dimanche à la messe. Quel sauvage vous êtes! Tout à fait comme moi. C'est vrai que je suis presque votre parente. Vous ne m'aimez pas, Makar Alexeïevitch? Et je me sens souvent très triste quand je suis seul. Certains jours, particulièrement vers le crépuscule, il m'arrive de me trouver seul, toute seule. Fedora est allée faire quelques achats. Alors je m'assieds, je rêve. Je rêve sans fin. Je revois le passé, les heures heureuses et les heures tristes. Tout surgit de nouveau dans mon esprit. Les souvenirs semblent émerger du brouillard. Je revois les visages familiers, je crois parfois les voir véritablement, et celui de ma mère surtout plus que les autres. Quels rêves je fais aussi! Je sens que ma santé est ébranlée, je suis si faible. Ce matin, par exemple, en me levant, je me suis trouvé mal. En outre, j'ai une si mauvaise toux. Je sais, je pressens que je mourrai bientôt. Qui donc s'occupera alors de mon ensevelissement? Qui suivra mon cercueil? Qui pleurera sur moi? Faudra-t-il que je meure dans une maison étrangère, chez des gens que je ne connais pas, dans une ville éloignée? Dieu, que la vie est triste, Makar Alexeïevitch. Pourquoi, cher ami, me bombardez-vous continuellement de bonbons? Je me demande en vérité d'où vous vient tant d'argent. Cher ami, ménagez vos ressources au nom du ciel. Ne les gaspillez pas. Fedora est en train de vendre un tapis que j'ai brodé. On nous en offre 50 roubles en assignat. C'est un très bon prix et je n'espérais pas en obtenir autant. Je donnerai à Fedora 3 roubles d'argent et me ferai une robe pour le reste, une petite robe simple mais chaude. Je ferai aussi un gilet pour vous, j'y travaillerai moi-même et je choisirai une bonne étoffe. Fedora m'a procuré un livre, Les Contes de Bielkin, que je vous envoie pour le cas où vous aimeriez le lire. Je vous prie seulement de prendre bon soin du volume et de ne pas le garder trop longtemps, car il ne m'appartient pas. C'est une œuvre de Pouchkine. J'ai lu il y a 2 ans ces récits en compagnie de ma mère et j'ai éprouvé tant de tristesse à les relire maintenant. Si vous avez d'autres livres, envoyez-les-moi, mais à condition qu'ils ne viennent pas de la Taziaev. Il ne manquerait pas de vous donner ses propres œuvres s'il a déjà publié quelque chose. Mais Comment pouvez-vous goûter ce qu'il écrit, Makar Alexeyevitch? Ce sont des inepties. Adieu pour l'instant. Je me suis attardé à bavarder avec vous. Quand je suis triste, je trouve du plaisir à causer de n'importe quoi. C'est un bon remède. Je me sens soulagé ensuite, tout particulièrement si j'ai pu dire ce que j'avais sur le cœur. Adieu, adieu, mon ami. Votre V.D. juin. Ma petite mère, Varvara Alexeyevna. Quand donc cesserez-vous de vous tourmenter et de vous affliger sans motif? Comment n'avez-vous pas honte? Voyons, mon petit ange, soyez raisonnable. Comment pouvez-vous vous faire des idées pareilles? Vous n'êtes pas malade, mon âme, pas du tout malade. Vous êtes florissante, au contraire, épanouie, je vous l'assure. Un peu pâle, peut-être, mais florissante malgré tout. Qu'est-ce aussi que cette histoire de rêve que vous faites ou de vision? Laissez donc ces sottises, ma tourterelle, n'y pensez plus. Envoyez ces rêves à tous les diables et basta. Comprenez-vous? Pourquoi est-ce que je ne m'en fais pas, moi? Est-ce que je rêve, moi? Est-ce que j'ai des visions? Répondez-moi. Prenez exemple sur moi, ma petite mère. Je vis paisiblement, je dors bien, je me porte comme un charme. Cela fait plaisir à voir. Oubliez ces sornettes, mon âme, oubliez-les. Je connais votre petite tête, mon enfant. Il suffit d'un rien pour que vous vous mettiez à rêver, et vous devenez triste aussitôt. Pour l'amour de moi, ne le faites plus, mon amour. Prendre un emploi dans une maison étrangère, oh, jamais de la vie! Oh non, et non, quelle idée avez-vous eue là? Qu'est-ce qui vous a pris tout d'un coup? Et loin d'ici encore? Mais non, ma petite mère, je ne permettrai pas. Je m'opposerai de toutes mes forces à ce projet. Je vendrai mon vieux frac et sortirai en chemise s'il le faut, mais vous ne manquerez de rien chez vous. Non, Marinka, non. Je vous connais, moi. Ce sont des idées absurdes, insensées. Pour sûr, c'est Fedora qui est cause de tout. C'est, je crois, une femme stupide et c'est elle qui a dû vous influencer. Mais ne croyez pas ce qu'elle dit, ma petite mère. Sans doute ne la connaissez-vous pas encore, cette Fedora. C'est une femme sotte, querelleuse, qui parle à tort et à travers. C'est ainsi qu'elle a conduit au tombeau son malheureux mari. Ou bien vous aurait-elle inspiré quelque mécontentement de votre vie présente? Non, non, ma petite mère, pour rien au monde. Que deviendrais-je, moi, en ce cas? Que me resterait-il à faire? Non, Varinka, ma petite âme, chassez ces idées de votre tête. Mais que vous ment-il donc chez vous? Votre présence est une source permanente de joie pour nous. Vous nous aimez, vivez donc tranquillement, là où vous êtes maintenant. Faites de la couture, ou lisez, ou plutôt, non, ne cousez pas, c'est égal, mais restez avec nous. Sinon, où irons-nous? Jugez vous-même. Je vous apporterai des livres, et peut-être que nous ferons une nouvelle promenade dans quelque temps. Mais laissez ces projets, ma petite mère, laissez-les. Devenez raisonnable et ne faites pas de sottes histoires pour des riens. Je viendrai vous voir, je viendrai bientôt. Mais en revanche, permettez-moi de vous le dire franchement et sincèrement. C'est mal, ma petite âme, c'est très mal. Je sais que je suis un homme sans instruction, je le reconnais moi-même. Je n'ai pas fait d'études et ce n'est pas de cela d'ailleurs que je veux parler, ce n'est pas de moi qu'il s'agit en ce moment. Mais je ne laisserai pas toucher à Anastasia Levra, c'est vous qui l'avez voulu. Il est mon ami et c'est pourquoi je le défends. Il écrit bien, très bien même. Il écrit admirablement, je dirais même qu'il écrit à merveille. Je ne suis pas d'accord avec vous et ne serais en aucun cas approuver votre jugement. Il a un style fleuri, élégant, avec des images et avec des idées. Oh, c'est très bien, en vérité. Vous avez peut-être lu ces passages dans un moment de distraction ou d'insensibilité, Varinka. Vous les avez lus sans cœur, ou bien vous étiez de mauvaise humeur, ou peut-être étiez-vous fâché contre Fedora, ou quelque incident désagréable vous préoccupait-il à ce moment. Non, il faut que vous le relisiez encore, une fois, et avec du sentiment. Il faut que vous les relisiez de façon attentive, lorsque vous serez dans un état d'âme agréable, que vous vous sentirez contente ou gaie, par exemple, en croquant un bonbon ou en le suçant. C'est à ce moment-là que vous devriez relire ces passages. Ne le conteste pas, qui donc le contesterait, qu'il existe de plus grands écrivains que Rataziaïev. Il en est même de beaucoup plus grands. Mais si ces auteurs célèbres sont excellents, Rataziaïev lui aussi est remarquable. Ils écrivent fort bien, et il écrit très bien aussi. Il est à part, il écrit comme ça, à sa façon. Et il fait très bien d'écrire. Allez, adieu maintenant, ma petite mère. Il m'est impossible de prolonger cette lettre. Je suis pressé, des affaires m'appellent. Mais je vous en supplie, ma petite mère, mon hirondelle, calmez-vous et que le Seigneur soit avec vous. Pour moi, je demeure votre ami fidèle, Makar Yevouchkin. Post-scriptum. Merci pour le livre, ma chère amie. Je lirai aussi Pouchkine, puisque vous le désirez. Et ce soir, je viendrai chez vous, je vous le promets.